Il est 8h et vous êtes sur Radio Jóvenes.
Bonjour Alicia.
Bonjour Mathéo.
Au programme, il y aura des interviews, des reportages, des chroniques, un débat et un micro-trottoir.
Tout de suite, commençons avec un reportage d'Alissa et Carla sur le voyage en Espagne.
Venga rumbo a España. Le 19 février, les élèves de 3e du collège Pablo Picasso sont partis pour une durée de 5 jours en Espagne.
Ils ont visité les villes de Tarragone, Valence et Barcelone. Au cours des nombreuses visites, les élèves se sont rapprochés et ont créé des liens parfois inattendus entre eux.
Nous avons eu l'idée d'interroger nos camarades sur leurs ressentis par rapport à l'Espagne et aux liens créés.
Au cours de ce sondage, les élèves ont exprimé un avis identique en disant que les relations créées étaient inattendues et nombreuses.
Ils disent aussi avoir beaucoup appris sur les traditions et la tolérance dans le mode de vie des Espagnols. Les élèves en savent désormais beaucoup sur l'avantage des voyages et de la vie en communauté.
J'ai appris comment vivaient les Espagnols. Oui, je me suis approché de beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y a beaucoup de soleil et c'est beau.
J'ai appris que les Espagnols ne portaient pas vraiment attention au regard qu'on leur portait. Je me suis rapprochée de certaines personnes avec qui je ne m'y attendais pas du tout. Je la trouve super parce que déjà les horaires sont décalés, on peut manger à n'importe quelle heure. Les personnes sont serviables, c'est convivial et puis en plus il fait beau.
Alors durant ce voyage, j'ai pris connaissance des coutumes espagnoles ainsi que de la tradition. J'ai vu aussi comment les Espagnols vivaient et j'ai aussi appris que les gens là-bas ne se souciaient pas de leur apparence et de ce que pouvaient penser les autres. Ils vivaient leur vie sans se soucier du regard des autres. Pas vraiment parce que à là-bas je m'entendais bien avec tous les élèves et ça a continué là-bas. J'ai parlé avec un peu tout le monde et il n'y a pas eu trop de problèmes. Oui, j'aimerais vivre en Espagne parce que là-bas, je trouve que c'est un pays très familial. On fait tout en famille et entre amis.
Maintenant, nous allons vous présenter comment réviser le brevet facilement. Cette chronique est présentée par Mathéo, Daoud et Dorge. Comment réviser le brevet plus facilement?
Le brevet est un diplôme national que tous les élèves de 3e doivent passer. Il y a plusieurs épreuves, dont l'histoire et la géographie, les mathématiques, le français, la science et vie de la Terre, la technologie et la physique-chimie.
Nous allons essentiellement vous parler des trois grandes matières générales et de l'épreuve orale. Voici mes conseils pour réviser le français. Faire des fiches de révision avec son cours ou en utilisant ses connaissances personnelles. Utiliser le fichier outil pour connaître sa conjugaison. Pour la conjugaison, allez sur un site d'exercice comme Ortholude pour s'entraîner. Faites des cartes flash en vous aidant du fichier outil, comme pour savoir c'est quoi une assonance ou une allitération.
Pour les mathématiques, il est important de s'organiser en faisant de petites sessions très régulièrement. Il faut apprendre petit à petit et on n'hésite pas à refaire un même exercice plusieurs fois. Cela permet de découvrir les fautes commises. Débuter les révisions quelques semaines avant l'épreuve. Changer de rythme, changer l'attitude face au travail. Il faut environ 2 jours de repos pour récupérer complètement. Changez vos habitudes, couchez-vous plus tôt avant 22h30. Il faut bien dormir et bien manger. L'idéal, c'est de former un binôme avec une personne de niveau différent. Si vous avez des difficultés en mathématiques par exemple, essayez de réviser avec quelqu'un qui en a moins. Cette personne pourra donc répondre à vos questions et pourra clarifier ses connaissances en les expliquant.
Pour l'histoire-géographie, faire un planning peut vous aider à être régulier dans votre travail. Le plus important est de bien réviser tous les chapitres car ils sont tous liés. Pour la géographie, il faut refaire des cartes vierges car il y en a plein sur internet. Il faut aussi se concentrer sur les plans. Il faut aussi faire plein de petites fiches résumées de tous les chapitres vus au cours de l'année.
Pour l'oral, il faut savoir quoi dire, c'est-à-dire de bien connaître son sujet. Il faut prendre du recul et essayer d'être à l'aise et compréhensible pour votre auditoire. Essayez d'être naturel. L'oral dure 25 minutes, donc je vais vous proposer une petite structure. Vous faites 10 secondes de salutation, 30 secondes d'introduction, vous faites une présentation de votre sujet. Faites une première partie de 2 minutes 30, une deuxième de 3 minutes, une troisième de 2 minutes et une quatrième de 2 minutes. Vous faites 1 minute de rappel des points importants, conclusion de votre sujet. Les questions durent 3 minutes. En conclusion, il ne faut pas céder au stress et il faut se concentrer. Je vous dis bonne chance pour votre oral.
Nos trucs et astuces. Éteins ton portable ou tout autre objet informatique. Fais ton emploi du temps, révise régulièrement, donne-toi un objectif à atteindre et n'hésite pas à demander à un ami ou une personne de t'aider dans tes révisions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir.
Y que sea de mayor.
À présent, nous allons laisser place à Clémence et Apolline, qui vont nous parler de la place du sport dans la vie des jeunes.
Todos juntos. Bonjour, nous nous sommes intéressés à la place du sport chez les jeunes. Pour cela, nous avons fait des recherches et avons interrogé des jeunes de notre collège sur la place du sport dans leur vie.
Le sport peut se pratiquer individuellement ou collectivement.
Il peut donner lieu à des compétitions. Beaucoup de sports ne sont pas accessibles parce qu'ils sont chers, comme l'équitation, le golf ou le hockey sur glace par exemple.
La pratique d'une activité physique est plus courante chez les jeunes de 15 à 18 ans et plus chez les hommes que chez les femmes. Les sports les plus pratiqués sont le football, la natation et le vélo.
Parmi les individus âgés de 15 ans et plus, 65% déclarent pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine. Nous avons donc interrogé plusieurs élèves de 3e pour répondre à nos questions. Qu'est-ce que ça t'apporte ?
C'est une passion.
Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du sport ?
Bah, je suis mieux dans...
Non. J'aimerais. En club, j'ai l'impression qu'ils nous mettent vraiment beaucoup la pression. Et on fait pas comme on veut, en fait. C'est pas comme un loisir en club.
Oui, des fois, dehors, j'en fais. Parce que j'ai envie d'avoir du temps libre et pas être toujours bloqué dans un club à venir toujours aux mêmes heures, tout ça.
J'ai 14 ans et je fais plus de sport. Parce que j'avais pas envie et puis ça me prenait sur mon temps libre. Parce que c'est long. Et ça me bloque sur mon temps libre.
J'ai 14 ans et oui, je fais du sport. Du foot. J'ai entraînement le mardi et le jeudi et je fais des matchs le samedi. Donc, je sais pas, 6 heures. C'est bien, je suis avec mes copines et je fais du sport.
J'ai 14 ans et oui, je fais du foot. J'en fais à peu près 10 heures. Ouais, j'en fais un club. Déjà pour me défouler, et c'est ma passion. Et j'aimerais finir footballeur professionnel.
J'ai 14 ans, je fais du full contact. Oui, 6 heures. Pas le bien de mon être. Par exemple, déjà je me sens mieux dans mon corps. Je souffre et du coup je suis pas obèse par exemple. J'aime bien moi la solidarité parce que tout le temps quand par exemple il y en a un qui fout le bordel, les autres ils le couvrent quoi.
J'ai 15 ans et oui, je fais du sport en UNSS. Je fais du basket et du tennis de table. Ça fait à peu près 2 heures par semaine. C'est bien parce que j'en fais avec mes amis. Du coup, on fait du sport ensemble quoi. Rien à part de m'amuser.
J'ai 15 ans et je fais du sport, du judo, 3 heures par semaine. C'est ma passion, ça me sert à défouler. À mieux servir de mon corps, tout ça.
Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 14 ans et demi. Je fais du sport, je fais du kung-fu à Saint-Étienne-du-Rouvray. 3 heures par semaine. Ça me détend plus.
Bonjour, alors non, je ne fais pas de sport. J'avais l'habitude d'en faire les années précédentes, mais comme là, je suis en 3e et qu'il y a le brevet et le programme est chargé, je pense que je n'aurai pas le temps pour le sport. Oui, mais ça dépend lesquels, c'est-à-dire que les sports... J'aime que les sports de combat et les sports avec les balles et tout, ça m'intéresse pas trop.
En conclusion, on remarque que beaucoup de jeunes font encore beaucoup de sport de nos jours.
80% des jeunes que l'on a interrogés pratiquent régulièrement le sport, dont 55% en club. On en déduit donc que 20% des jeunes ne font pas de sport, et généralement parce qu'ils trouvent que cela prend beaucoup de temps et que ça bloque leur temps libre.
C'est pourquoi nous vous rappelons que tous les mercredis, plusieurs sports comme le tennis de table, l'escalade ou bien la voile sont proposés au collège dans le cadre de l'UNSS, et cela pour très peu d'argent.
Enchaînons avec une interview réalisée par Yanis, Mathéo, Imad et Aloïs. Ils présentent le métier de bijoutier fantasy dans le cadre d'un concours.
Bonjour, je vais vous présenter la boutique Fleur de Peau, qui est tenue par Michel Lollier. Dans le cadre du concours Les Reporters de l'Artisanat, on a été emmenés par un taxi à Rouen, rue Beauvoisine. Pour rencontrer Michel Lelier, un bijoutier fantasy qui travaille essentiellement le cuir. Quand nous sommes rentrés dans la boutique, il y avait une forte odeur de cuir. Il y avait beaucoup de couleurs. Monsieur Lelier va vous présenter son travail, son orientation, son parcours et ses motivations.
Il y a 3 tables de travail. Donc il y a tout ce qui est le stockage du cuir. Il y a le stockage du cuir. Là, je l'avais vu dans les tiroirs. Il y en a d'autres ailleurs, même un peu partout. Il y a même une autre pièce de l'autre côté. Une pièce ou une teinte, parce qu'une fois que vous avez vu, c'est des couleurs naturelles le cuir. Donc après, pour faire du rouge, du bleu, du vert, etc., on a une pièce spéciale où je mets un masque avec des cartouches, etc., pour teinter le cuir, d'accord. Donc là, il y a effectivement l'espace montage bijoux, en fait, avec les plus de 200 tiroirs où il y a tous les apprêts dedans. Il y a tout ce qu'il faut pour monter des bijoux, n'importe lesquels. Donc il y a l'outillage, là-bas c'est des emporte-pièces, là vous voyez, au bord de l'enclume, il y a des emporte-pièces. Du matériel pour faire du montage, ça c'est quelque chose pour faire, mettre des rivets. il y a la machine, là, la scie à champ tourné, c'est une scie à champ tourné. Et puis il y a du stockage aussi, un peu de cuir de côté. Et puis là, bien sûr, il y a la partie boutique. On fait surtout des fleurs en cuir que l'on monte sur bijoux. Voilà. Tournesol, les orchidées, les coquelicots.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Le parcours du départ, c'était fleuriste déjà, pendant 13 années. Et donc, après, il y a eu d'autres périodes dans ma vie qui ont fait que j'ai arrêté le métier de fleuriste. Et donc, j'ai rencontré Helga, qui est devenue mon épouse. Et donc, c'est plutôt Helga qui était dans le cuir. On travaillait le cuir déjà, qui travaillait le cuir. On a travaillé ensemble la découverte de comment former, comment fabriquer un bijou fantaisie. Hein, je dis bien, c'est fantaisie. Parce qu'il y a des bijoux plus en argent, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit à découvrir en fait le monde du bijou, donc il y a 15 ans seulement, et à force de travail, etc. C'est une évolution des fleurs en cuir qu'on faisait sur des tableaux au départ, qu'on est arrivé à faire des bijoux. Donc voilà, tu vois, c'était un cheminement de longue haleine, en fait. Faut avoir un peu de patience, puis il faut avoir aussi, enfin la patience, oui, c'est pas... Non, il faut avoir la précision plutôt, pas de la patience. La précision, et puis avoir des idées, puis après avoir une certaine harmonie de couleurs, ça c'est important aussi. Hein.
Vous travaillez que à la main ou vous utilisez aussi des machines ?
On est artisan d'art d'ailleurs, et donc on travaille spécialement, nous, à la main. Hein. Il y a quelques outils, quelques machines, donc déjà c'est pour travailler le cuir, parce qu'il faut déjà, avant de faire un bijou, il faut faire des fleurs, parce que c'est notre spécialité. Donc pour faire les fleurs en cuir, tu vois, par exemple, là, il y a des patrons, hein, ce qu'on appelle des patrons, qui représentent les fleurs à plat, et donc après, avec le cuir qui se trouve être dans le tiroir là, tiens, si tu veux, on peut ouvrir un tiroir, voilà. Donc ça, c'est le cuir de base qu'on travaille, d'accord ? Bon, là, c'est pour des roses. Tu vois, on découpe du cuir comme ça, en petits morceaux, par exemple, toutes les tailles. On solidarise entre deux morceaux de carton ou de bois. Et après, je les découpe avec cette machine-là. Donc ça, c'est le seul appareil, disons, qu'on utilise, la seule machine, en fait. Après, ce sont des outils, en fait. Mais c'est surtout, principalement, après, c'est travailler à la main parce que c'est mouillé. En fait, je vais découper, je vais avoir plein de morceaux. Et donc, c'est mouillé, c'est travailler à la main.
Est-ce que ça rapporte ?
Est-ce que ça rapporte ? Disons que ce qui est important, c'est de pouvoir en vivre, déjà à deux. Hein, mais je crois surtout, c'est au départ, c'est surtout le plaisir d'abord, plus que le rapport à l'argent.
Quels sont vos horaires ?
Ah, les horaires ! Toujours la question qui tue, ça. La question là, elle est... si tu veux, le temps, la notion de temps... on a du mal à la cerner. En fait, c'est ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a besoin.
À peu près à quel âge la retraite d'un bijoutier ?
Alors là, pour te dire, tu vois bien, moi je suis déjà en retraite en fait. Hein ? Donc je fais un cumul emploi-retraite. Hein ? Donc la retraite d'un bijoutier, c'est pas que d'un bijoutier, c'est les travailleurs indépendants. Hein ? Donc un travailleur indépendant, bah, il a le droit de travailler jusqu'à l'âge qu'il veut, en fait. D'accord ? Le principal, c'est qu'il ait suffisamment d'argent pour vivre quand il est en retraite. Donc il n'y a pas un âge, disons, limite. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, un salarié, lui, il va arrêter à 60, allez, en 60, 62. Hein ? Mais après, il est obligé de partir. Hein, il peut plus, sauf aller retrouver un autre boulot ailleurs. Je sais pas, c'est pas facile. Nous, si on estime que notre retraite n'est pas suffisante, à 62, 63, 64, 65, tant que tu es en bonne santé, 66, 67, 68, tu peux continuer. Oui. Il n'y a personne qui va t'interdire de continuer.
Oui.
Il n'y a personne qui va dire non, monsieur, vous arrêtez. Vous êtes en retraite. Oui.
Continuons avec un débat mené par Alissa, Imad et Yanis sur le thème du cannabis. Alors, faut-il légaliser le cannabis ?
Bonjour, je pense qu'il ne faut pas légaliser le cannabis. Quand on fume, on n'est plus soi-même. On ne sait plus ce qu'on fait. Si on prend le volant, on peut causer des accidents.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pour la légalisation du cannabis, qui peut servir à un usage thérapeutique, ce qui se fait dans plus en plus de pays, comme aux Pays-Bas ou dans certains États américains.
Il faut dire que la France est à la traîne sur ce sujet de la légalisation. De nombreux pays ont sauté le pas.
Aussi, le cannabis est utilisé pour soulager les douleurs de certaines maladies graves. Certaines personnes atteintes du cancer et qui subissent des chimiothérapies utilisent le cannabis pour atténuer ses effets secondaires, comme les douleurs ou les vomissements.
Oui, mais attention, c'est une drogue qui rend certaines personnes dépendantes en cas d'usage régulier.
D'accord, mais il peut être consommé de façon récréative en soirée. Ce n'est pas une drogue appelée dure comme l'héroïne ou la cocaïne.
Si cette drogue est légalisée, les jeunes seront sans doute poussés à consommer du cannabis, ce qui aurait des conséquences très néfastes sur leur santé et leur scolarité.
Oui, mais selon les études, 46,3% des garçons et 37,9% des filles de 17 ans ont déjà expérimenté le cannabis. On ne peut pas dire que notre loi qui date de 1970 soit très efficace. 2 millions de Français fument plus ou moins régulièrement du cannabis et sont donc dans l'inégalité... Et sont dans l'inégalité passible de prison.
D'ailleurs, une nouvelle loi est en projet, changeant le statut de cette infraction. Une simple amende sanctionnerait l'usage du cannabis.
Justement, la légalisation... Il ne faut pas oublier que le trafic de drogue a transformé certains quartiers en zone livrée aux trafiquants. Les fumeurs de cannabis s'approvisionnent auprès des dealers, qui peuvent leur proposer des drogues plus dangereuses encore.
Bah oui, justement, la légalisation permettrait le contrôle de ces territoires par l'État et une baisse de la délinquance liée à la drogue. Quand on sait que 236 000 personnes vivraient aujourd'hui du trafic de cannabis, cela permettrait de créer des emplois légaux à la place.
Oui, mais si ces délinquants ne proposent plus de cannabis, ils se tourneront vers le trafic de drogue dure ou des armes. La légalisation pourrait provoquer une baisse des prix des drogues, facilitant leur accès.
On devrait être libre de faire ce qu'on veut, mais si c'est mauvais pour la santé, cela ne regarde pas les autorités.
D'accord, mais la loi doit protéger chacun de nous, y compris contre sa volonté.
Pour notre avant-dernière rubrique, nous accueillons Lina et Soukena qui vont nous présenter une chronique sur les inégalités entre les hommes et les femmes à travers le monde.
Para un mundo con igualdad.
Les inégalités hommes-femmes sont le fruit d'un problème mondial qui perdure depuis toujours. Bien que ce problème se soit amélioré au cours de ces 40 à 50 dernières années, surtout dans les pays européens, mais aussi dans d'autres pays bien développés, à l'exemple de la Suède, du Danemark ou encore du Canada, ces inégalités sont toujours présentes malheureusement dans certains pays, notamment en Afrique du Sud ou encore en Asie du Sud. Pour notre chronique, nous avons décidé d'étudier trois pays bien différents en termes d'inégalités hommes-femmes. Le Mali, l'Inde et pour finir, l'Islande.
Le Mali. Dans ce pays d'Afrique, les inégalités hommes-femmes sont une évidence tout d'abord dans l'accès à l'éducation, car il faut savoir que le Mali est le sixième pays où les filles n'ont pas d'accès à l'éducation. Selon une étude scientifique, seulement 38% des filles maliennes sont arrivées à la fin du cycle primaire. Cela est sûrement dû au fait que la pauvreté des familles les oblige à travailler de leur plus jeune âge. Au niveau du travail, l'égalité des salaires est absente et ce sont les hommes qui prennent le dessus car la femme malienne est entièrement responsable des activités domestiques, faire le ménage, garder les enfants, etc. Ensuite, il n'y a pas de loi interdisant les discriminations envers ces femmes. Plus de 30% des Maliennes sont victimes des coups quotidiens de leur mari, ce qui affecte gravement la santé physique et mentale de celle-ci.
Passons maintenant à l'Inde. Avant 2007, la situation des femmes indiennes était vraiment abominable. Elles étaient, tout comme au Mali, victimes de discriminations quotidiennes et étaient exclues de toute décision politique et sociale. L'école était un bien grand mot pour les jeunes filles, puisque moins de 2/3 des filles de 6 à 17 ans étaient scolarisées. La plupart des jeunes indiennes restaient chez eux pour s'occuper des enfants et aider leurs parents. On sait aussi que 25% des indiennes se marient avant 15 ans. Cela cause évidemment différents problèmes pour le bébé, sûrement dû au manque d'expérience de l'adolescente. Heureusement, depuis 2007, c'est une femme qui dirige le pays, et c'est bien la première fois depuis la République indienne de 1950. L'arrivée de cette nouvelle dirigeante a permis aux femmes du pays d'obtenir plus de droits. notamment dans les engagements politiques, l'éducation ou encore dans le droit aux allocations familiales.
L'Islande. En termes d'égalité des genres, l'Islande se retrouve parmi les pays les plus exemplaires. Les Islandaises ont acquis une égalité incroyable face aux hommes. Ce pays d'Europe se classe premier en matière d'intégration politique de femmes. En Islande, l'égalité des droits passe aussi par la maison. Désormais, la mère et le père ont droit à 3 mois de congé parental chacun, plus 3 mois à se partager si l'un des deux parents ne décide pas d'utiliser ces 3 mois de congé, l'autre ne peut pas prendre les 3 mois restants. Le but de cette nouvelle loi est principalement de permettre à l'enfant de profiter de ses deux parents en même temps. Et pour finir, l'Islande détient la place du premier pays du monde à imposer l'égalité des salaires pour les hommes et les femmes. Et la France dans tout ça ?
Eh bien, nous pouvons dire que notre pays ne s'en tire pas trop mal au niveau des égalités des genres. Ici, hommes et femmes bénéficient des mêmes droits pour l'éducation. Mais il existe toujours un écart important dans le choix des filières après le collège. Seulement 22% des filles françaises se dirigent vers le domaine scientifique. Ensuite, hommes et femmes arrivent à égalité devant le chômage. 10% des hommes se sont retrouvés sans emploi en 2016 et 10,1% des femmes. Mais il reste encore quelques progrès à faire en matière d'égalité salariale, car nous avons constaté que les hommes gagnaient 36,4% de plus que les femmes. Celles-ci restent largement défavorisées sur le marché du travail et occupent le plus souvent des emplois de mauvaise qualité et non souhaités à temps partiel.
Voilà, c'est tout pour notre chronique. On vous laisse en espérant qu'un jour l'égalité triomphera enfin par toutes les femmes du monde.
Et nous terminons avec Marine et Alicia qui vont vous parler de l'addiction au téléphone.
Socorro, necesito el móvil.
Après avoir fait un sondage d'élèves de la 6e à la 3e, nous avons constaté que le téléphone prenait de plus en plus de place dans la vie de nombreux collégiens. Les jeunes d'aujourd'hui passent en moyenne 4 heures sur leur téléphone par jour.
La plupart des 6e et 5e passent en moyenne 3 heures sur leur téléphone et pourraient s'en passer un mois. Leurs principales activités sont de jouer à toutes sortes de jeux. La majorité des 4e et 3e passent environ 5 heures sur leur téléphone et pourraient s'en passer seulement une semaine. La plupart du temps, ils vont sur les réseaux sociaux et regardent des vidéos.
Un petit conseil à tous ces jeunes qui passent énormément de temps sur leur téléphone, il faudrait qu'ils s'imposent des limites de temps.
C'est simple !
Nous avons décidé de poser des questions supplémentaires aux élèves de 3e car c'est la génération qui passe le plus de temps sur leur téléphone. Nous leur avons demandé s'ils mangeaient et dormaient avec leur téléphone et s'ils pensaient être addicts.
Nous avons conseillé à tous les jeunes qui mangeaient avec leur téléphone de les quitter pendant ce moment familial. Certains jeunes sont victimes de troubles du sommeil à cause de la lumière des écrans qui envoie des signaux d'éveil à leur corps. Certains même se réveillent la nuit pour répondre à des messages, du coup leur sommeil est perturbé. Il est donc préférable de mettre son téléphone en mode à vue.
C'est pas aussi simple.
De nombreux jeunes sont addicts à leur téléphone, mais ils ne savent pas que les effets sur le cerveau sont les mêmes que la cocaïne.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonne journée. C'est fini pour aujourd'hui, nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt sur Radio Jóvenes.